Chapitre 31. Suivez les poissons. L'eau jusqu'aux genoux, Agnelle regardait Solario et les autres enfants du château travailler. Depuis plusieurs jours, c'était eux, et seulement eux, qui tenaient entre leurs mains le destin de l'expédition de la forêt. Alors que les enfants du tipi se contentaient de les laisser tranquilles, ou d'obéir à leurs ordres en se mettant à leur service. Ils avaient par exemple pour mission de recueillir certains oiseaux malades sur les berges du lac inférieur et de leur ouvrir le bec et le ventre pour observer à quel rythme les traces jaunes diminuaient. Tout aussi important, les enfants du tipi devaient surveiller les alentours. La peur des bêtes sauvages n'avait pas totalement disparu, même si depuis l'attaque du loup gris, abattu par l'Uponero, le froid, la neige et le sol gelé avaient laissé place à un grand soleil de printemps. Les primes verts et les jonquilles coloraient les clairières, les stalactites de la cascade avaient fondu et l'eau devenait même rare. Il n'avait pas plu depuis plusieurs jours. Si l'herbe dans les sous-bois continuait d'être humide de rosée, celle des champs dans les plaines était déjà jaune et sèche, comme en plein birthday. Les loups aimaient le froid. Les loups ne reviendraient pas. Mais les enfants du tipi guettaient une autre créature sauvage pendant que Solario et son équipe travaillaient. L'Uponero. Depuis qu'il l'avait rencontré, il ne disait plus le l'Uponero, mais simplement l'Uponero ou Lupo, comme n'importe quel autre prénom, puisqu'il n'était pas un monstre, mais un garçon. Comme eux. Un garçon mystérieux qui les avait prévenus. Lui aussi les surveillait. Il était le gardien de la forêt. Aucun d'entre eux n'osait se l'avouer, mais tous avaient secrètement peur de recevoir une flèche géante dans le dos, si par maladresse ils arrachaient une fleur, écrasaient un champignon ou simplement chassaient un papillon d'un revers de main. De quoi était capable cet enfant magicien qui parlait le langage des animaux sur terre, celui des oiseaux dans les airs et même celui des poissons sous l'eau? Cet enfant magicien qui leur avait indiqué l'origine du poison. Suivez les poissons. Agnelle, Solario et tous les autres enfants de la délégation avaient suivi les poissons. Ils avaient longé la berge du lac inférieur, longtemps, jusqu'à une petite crique dissimulée par de grands saules pleureurs. Ils avaient compris. Surpris. Le soleil de fer était tombé là, à moitié dans l'eau du lac, à moitié sur les berges. Sa chute avait creusé un vaste cratère dans la boue. Le soleil échoué possédait la taille d'une petite maison, construite avec la même matière que le tipi, en fer, mais beaucoup plus brillant, et de forme presque aussi ronde qu'un ballon géant. « Il possède la taille et les caractéristiques d'un satellite artificiel », avait tenté d'expliquer Solario. Cette comparaison n'avait rien évoqué aux enfants du tipi. De toutes les façons, le regard des enfants avait très vite glissé sur le soleil de fer et était descendu vers l'eau stagnante dans laquelle il s'était écrasé en tombant du ciel. Dans sa chute, sa partie inférieure s'était aplatie, tel un ballon crevé. Sa base, sans doute sous le choc, s'était fissurée. Les plaques de fer s'étaient écartées et, du cœur du soleil, le sang s'échappait, comme celui d'un lapin ou d'un poulet qu'on aurait éventré. Sauf que le sang du soleil de fer n'était pas rouge, mais jaune. Un jaune vif, aussi intense, chaud, brûlant, que celui du soleil encore accroché dans le ciel quand on parvenait à le fixer quelques secondes. Le sang jaune s'échappait sous les tôles argentées et s'écoulait dans l'eau, provoquant des bulles qui remontaient à la surface en fumant. Les enfants pouvaient suivre des yeux le mince filet jaune entraîné vers le large par le courant du lac et le voir diminuer d'intensité jusqu'à devenir invisible. En découvrant le soleil de fer, tous les membres de la délégation avaient eu la même réaction. Ils venaient de découvrir l'origine du poison. Solario, Braza, Romagna et d'autres enfants du château s'étaient approchés. À l'aide d'outils, ils avaient minutieusement démonté certaines plaques de fer du soleil échoué. Tout en prenant garde de ne jamais toucher le sang jaune, ils avaient cherché à comprendre d'où provenait la fuite, Comment la stopper? Avec d'infinies précautions. Ni Agnelle, ni les autres enfants du tipi n'avaient compris. Ce « satellite », comme l'appelait Solario, avait été construit à partir d'une technologie qui les dépassait, utilisant une énergie dont ils ignoraient tout. Solario avait parlé d'énergie solaire, combinée à ce liquide jaune et à une roche extrêmement dangereuse permettant une microfusion nucléaire. Les enfants du château avaient passé une journée à établir leur diagnostic. Ce sang jaune était responsable de la maladie des animaux. Quiconque buvait cette eau était contaminé. Et quiconque mangeait les animaux contaminés le devenait à son tour, même si, curieusement, les poissons semblaient moins touchés. Solario estima qu'il était possible de bloquer la fuite, mais qu'il leur faudrait de nombreux jours. La majorité du sang jaune du soleil de fer se trouvait encore en son cœur, ou plus précisément, Solario avait essayé de tout expliquer en utilisant une image, le cœur du soleil de fer battait encore et continuait de produire ce poison jaune. C'était ce cœur qu'il fallait éteindre. Avant cela, il devait en comprendre le fonctionnement. Même s'il possédait certaines notions de physique, ils n'étaient que des enfants de 12 ans. Ils avaient d'ailleurs fait une autre découverte étonnante en examinant le soleil de fer. Sur la plupart des pièces de métal, trois lettres étaient gravées. N, E, O. Aucun d'entre eux, même Solario, n'était capable d'expliquer ce qu'elles signifiaient. À l'exception de la résolution de ce mystère, Solario et les autres savants progressaient. Vite, plus vite qu'ils ne pensaient. La veille, Solario avait annoncé qu'ils estimaient avoir terminé leur travail dans moins d'une semaine. Alors, le cœur du soleil de fer cesserait de battre. Les dernières gouttes de sang jaune s'écouleraient. Puis, il ne serait plus qu'un tas de fer, pas plus dangereux qu'un gros rocher. Encore quelques jours, et les animaux seraient sauvés. C'était le printemps. De nouveaux animaux allaient naître, des milliers, et eux seraient entièrement guéris. Tous les enfants de la délégation se laissaient gagner par une douce euphorie. Pourtant, pensait Agnelle, toutes les questions n'étaient pas résolues. Il avança doucement dans l'eau du lac en direction d'un martin pêcheur. Il devait bien le reconnaître, depuis que le sang jaune ne coulait presque plus du soleil de fer, les oiseaux du lac allaient mieux. Les traces jaunes dans leur ventre diminuaient. Il avait même demandé à Gulo Gulo de goûter leur chair. Agnelle refusait de manger un oiseau, qu'il soit empoisonné ou pas. Et Gulo n'avait pas souffert de mal de ventre, à peine une légère diarrhée. C'était une certitude. Au fur et à mesure que Solario et les autres enfants du château réparaient, ou plutôt endormaient le cœur du soleil de fer, les animaux guérissaient. Et il n'y avait aucun doute. Le sang jaune était le poison qui les tuait. Mais une incohérence perturbait Agnelle. Même si tous les enfants semblaient l'avoir oublié, les animaux, et les oiseaux en particulier, étaient tombés malades avant la chute du soleil de fer. Le soleil de fer était encore dans le ciel quand Akan et Mordelia avaient envoyé la patrouille dans la forêt. Comment le sang jaune avait-il pu commencer à se répandre alors que le soleil de fer était encore suspendu au-dessus de leur tête? Il en avait parlé aux autres, mais aucun ne paraissait s'en soucier. Une seule chose comptait, la guérison. La guérison prochaine. Alors, tous pourraient rentrer, ensemble, et expliquer que ni les enfants du château, ni les enfants du tipi n'avaient cherché à s'empoisonner les uns les autres. Personne n'était coupable. C'était un accident. Un simple accident. Une catastrophe dont personne n'était responsable. Un fléau tombé du ciel. Agnelle avança encore dans l'eau calme de l'étang quand un brusque coup de vent agita les branches des arbres les plus proches. Le martin pêcheur battit des ailes et s'éleva dans le ciel. Agnelle le regarda s'éloigner à regret. Souvent, dans ses rêves, il imaginait que le vent, un jour, souffle suffisamment fort pour que lui aussi puisse s'envoler. Évidemment, ça ne se produirait jamais. Même si le vent, ces derniers jours, soufflait de plus en plus intensément, par bourrasque, comme si un orage se préparait. Agnelle s'arrêta. Il avait de l'eau jusqu'à la taille. Il ne pouvait aller plus loin sans nager, La profondeur du lac augmentait ensuite rapidement. Il se retourna et observa encore les enfants du château travailler comme des fourmis autour du soleil de fer. Sur les berges, ceux du tipi étaient tout aussi occupés. Ils ramassaient du bois, des branches, les reliaient en fagots, puis les transportaient. Tous avaient eu l'idée, lorsque le soleil de fer serait définitivement endormi, de faire un très grand feu dans la plaine. Un feu qui se verrait de loin, de très loin. Du tipi, bien entendu, et peut-être aussi du château. Ils mangeraient et chanteraient autour du feu, puis ils s'endormiraient, avant de quitter la forêt le lendemain matin, et de rentrer. Ensemble, main dans la main, réconciliés. Enfants du château et enfants du tipi. Mission accomplie.